Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission Au Bon Soin, l'émission du magazine Sané. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Jean-Gabriel qui a vécu 17 ans dans une communauté religieuse. On va aborder le thème anges et démons. Bonjour Jean-Gabriel.
Bonjour Stéphanie.
Comment vas-tu ?
Très bien, avec ce beau temps qui fait un peu de bien.
Nous, il fait pas si beau.
Ah, nous, on profite. Il reste encore une demi-journée, on en profite.
Il faut bien, ouais, c'est sûr. Alors, nous, on s'est connus, en fait, par un ami qu'on a en commun. Et lorsque je cherchais des intervenants pour mon magazine pour parler du sujet anges et démons, donc on avait échangé un petit peu par téléphone et tu m'avais expliqué un petit peu ton parcours. Et voilà, on s'était dit pourquoi pas en parler à la radio. Est-ce que tu peux nous parler justement de ton parcours, de ce qui a fait que tu es rentré dans une communauté religieuse à un moment ?
Alors ça, c'est quand j'étais ado. Jeune, je me posais énormément de questions sur le sens de la vie, sur pourquoi la souffrance, pourquoi le deuil, sur plein de questions un peu en profondeur. Et j'avais aucune réponse. Et donc du coup, pour ma seconde, j'ai décidé de rentrer dans ce qu'on appelait à l'époque, on n'appelle plus ça un petit séminaire ou un juvénat, une école privée tenue par des frères et sœurs religieux, mais durant laquelle on vivait exactement comme eux. Donc en fait, la vie monacale, comme ils la vivaient, voilà. Et c'était vraiment dans ce souci de quête du sens. Et du coup, de me dire, s'il y en a un qui peut répondre à toutes mes questions, c'est Dieu. Donc le seul moyen, c'est d'aller le chercher, le rencontrer, et j'aurai peut-être des réponses à mes questions.
Et donc tu es parti à l'étranger, c'est ça ?
Alors, je suis parti dans les Vosges. Pour moi, c'était l'étranger, moi qui suis originaire d'Orthez, dans le sud-ouest de la France. Je suis parti de l'autre côté de la France pour faire donc cette école-là. Et puis ensuite, dans les parcours suivants, une fois que j'ai fini ce lycée, j'ai eu la chance de pouvoir travailler auprès des plus pauvres, entre guillemets, pauvres financiers, pas humains, très souvent. Un peu partout dans le monde, au Brésil, en Colombie, en Afrique noire, au Liban. Enfin voilà, ouais, ça fait partie de mon parcours.
Et j'imagine que rencontrer ces personnes-là, travailler avec elles, ça donne aussi un sens à la vie.
Oui, mais en fait, pour moi, ça a été une deuxième magnifique école. J'ai presque envie de dire, j'ai eu une école de la verticalité, celle de la vie de prière et de la recherche de Dieu, et une école de l'horizontalité, celle de la rencontre des frères dans la communauté, des sœurs, et puis celle de la rencontre des gens qui étaient dans un autre mode de vie que le nôtre, dans une vie dans l'urgence, dans une vie dans le dénuement complet, dans une vie... dans les bidonvilles. À l'époque où moi j'y étais, quand j'étais, pour prendre un exemple, en Colombie, dans les bidonvilles, moi j'étais à Medellin, petite ville bien connue pour son trafic de farine, et je m'occupais des enfants des quartiers pauvres, ce qu'on appelait les sicarios. Les sicaires, c'est des enfants qui étaient formés pour tuer. Et ça permettait de mettre une sorte d'insécurité dans les quartiers, et donc les FARC, dans les campagnes, faisaient la sécurité et permettaient le trafic, et les sicarios dans les villes mettaient l'insécurité et permettaient aux trafiquants de gérer aussi leur trafic. Et moi, ça a été une rencontre qui a été fantastique, qui m'a changé. Cette notion de on ne sait pas de quoi demain sera fait, on ne sait pas si demain on sera vivant, et chaque instant est essentiel. Et moi, c'est ce que j'ai eu la chance dans cette souffrance, entre guillemets, c'est ce que j'ai eu la chance de vivre comme expérience, qui était une super expérience.
Et dans ces moments, j'imagine qu'on rencontre le meilleur comme le pire de l'être humain.
Mais moi, j'ai rencontré que le meilleur, j'ai envie de dire.
Ouais.
Parce que même le pire... Je vais permettre de prendre un exemple que j'ai vécu qui relate bien les choses, pour moi, je trouve. quand je suis arrivé dans le petit quartier de Medellín, sur El Pan de Azúcar, comme ça ceux qui connaissent, ils sauront quel barrio c'était, je rentre dans la chapelle, je repère toute ma vie, parce que ça a été ma première rencontre, et je vois un gamin qui était en train de prier devant la Vierge. Et donc moi je dis, moi qui viens d'ici, France, où ben, dans les églises c'est vide, et à part les cheveux blancs, il reste plus grand monde bien souvent. Je lui dis, mais un enfant qui est seul dans la chapelle et qui prie devant la Vierge, mais c'est magnifique pour moi, qui sortait de ma communauté. Et puis je discute avec lui et il m'explique, non, je prie la Vierge pour qu'elle me permette de ne pas trembler. Et là je lui dis, pourquoi tu ne veux pas trembler? Parce que j'ai un contrat, il ne faut pas que je tremble, il faut que je sauve ma famille. Et quand vous avez ça en pleine tronche, vous dites, mais vous êtes en face d'un gamin. Son métier, ça va être de tuer quelqu'un. Parce que ne pas trembler, c'est ça. Parce qu'il doit sauver sa famille. Dans quel dénuement est cet enfant? Et vous avez ce mélange de vie, de souffrance, ce mélange d'espérance et de détresse, tout mêlé dans cet enfant. C'est très particulier comme sensation. Et du coup, c'est là où le beau et le dur, le difficile, parfois se mélangent. Dans ce que peuvent vivre certaines personnes.
Oui, tout n'est pas tout blanc ou tout noir, c'est un peu...
Rien n'est blanc, rien n'est noir. Moi, cet enfant-là, ce petit moment-là, a été un moment... c'est un moment clé, j'ai envie de dire, de ma vie. Qui fait que rien n'est noir, rien n'est tout noir, rien n'est tout blanc. Après, voilà, il faut faire attention où on met les pieds, il faut faire attention à ce qu'on fait. Mais dans la souffrance humaine, rien n'est tout blanc et rien n'est tout noir.
Est-ce que ça rejoint justement, pour revenir un peu sur le thème, ange et démon, est-ce qu'en nous, en nous-mêmes, il n'y a pas cette partie un peu ange, un peu démon parfois?
Pour moi, ça c'est plus un cliché des dessins animés avec le petit ange d'un côté qui nous dit les choses bien, moraliste,
ouais,
et le petit démon de l'autre épaule. Tintin, on a tous l'image, je pense, de ceux qui ont vu Tintin et Milou, du petit ange d'un côté, du petit diable de l'autre, et le petit ange, c'est la morale, et le démon, c'est les passions et les pulsions. Là, dans ce moment-là, non, pour moi, on n'est pas cette vision de l'ange et du démon. C'est une manière de traduire la morale et ce qui nous paraît immoral. On n'est pas dans la réalité de ces entités, ce que j'appelle, peut-être qu'on en parlera,
oui,
des entités que sont le démon et les esprits démoniaques ou anges. Là, on est plus dans cette vision-là, dans cette dichotomie de morale, de ce qui est moral, de ce qu'on a considéré comme moral, et de ce qu'on considère comme immoral, de ce que la société a créé en normes, ou la religion a créé en normes morales, en disant ça c'est le bien, faire le bien. Et attention, là tu vas suivre tes passions, tu vas suivre tes émotions, tu vas suivre tes pulsions, tu vas vers le mal, tu vas vers l'immoral. Et c'est ce qu'on a après, pour moi, schématisé avec, on a en nous un peu les deux côtés, ange et démon. Non, je crois que là, on a plus ce côté, qu'est-ce qui est de l'ordre de la morale et qu'est-ce qui est de l'ordre de l'immoral, qui est imposé par la société, par la religion, mais aussi par nous-mêmes, on a nos propres repères. Qu'est-ce qui est bon et qui va construire? Qu'est-ce qui est mauvais et qui va détruire? Et moi je suis persuadé que tout être humain est fondamentalement bon en lui, et en tout cas, à cette petite lumière, c'est là où Dieu intervient, cette petite lumière qui nous fait dire, attention, est-ce que là, de ce que je vais faire, c'est constructif, ça va aider, ça va construire à mon humanité, à l'humanité de l'autre, ou est-ce qu'au contraire, je vais la détruire pour mon profit propre, pour une pulsion propre, ou est-ce que moi-même, je vais commencer à me détruire pour suivre une pulsion ou une émotion, ou quelque chose qui va me tirer vers le bas et me sortir, d'une certaine manière, de mon humanité. Voilà, mais pour moi, là, on n'est pas dans cette vision. Il y a en nous un peu les deux. Non, il y a un côté moral et immoral. D'accord. Je sais pas si j'étais clair.
Au contraire. Ouais, tout à fait. Alors, on va faire une petite pause musicale. Tu as choisi Song of Solomon, c'est ça?
Ouais. de Martin Smith, que j'aime. Alors, c'est une chanson que j'ai découvert il y a pas très très longtemps, qui est très très belle. Moi, elle me parle beaucoup. Qui est tirée du Cantique des Cantiques. Alors, c'est un livre que j'invite à lire, qui est dans la Bible.
Oui.
Qui est très érotique, d'ailleurs, c'est très rigolo, dans sa manière de transcrire l'amour entre Dieu et l'être humain, et l'âme. Et comment l'âme, quoi que l'on vive, a le désir de Dieu, et combien Dieu, quoi que l'on vive, a le désir de venir nous rencontrer, comme deux êtres qui s'aiment énormément, qui veulent se rencontrer, et puis parfois les événements font qu'ils se ratent, qu'ils passent à côté, qu'ils se perdent, mais il y a toujours ce désir de se retrouver, et quoi qu'il arrive, l'amour est plus fort.
Merci, on écoute ça.
Voilà.
On se retrouve juste après.
You come running, my lover, to me. From your presence, pull me from these shadows. I need you. Beauty, wrap your arms around me. Sing your song of kindness. I need you.
De retour pour l'émission Au Bon Soin, l'émission du magazine Sané, en compagnie de Jean-Gabriel qui a vécu pendant 17 ans dans une communauté religieuse et qui nous a parlé un petit peu de ce qu'il a vécu à travers ses voyages et à travers ses expériences. Merci pour la chanson.
Avec plaisir.
Magnifique chanson. On n'a pas pu l'écouter en entier, elle est assez longue, mais je vous invite à aller écouter sur Internet. Donc c'est Song of Solomon de Martin Smith.
Exactement.
Alors, on revient un petit peu sur ce que tu disais tout à l'heure. Donc, notre sujet de l'émission, c'était ange et démon, mais on a parlé d'abord de la représentation morale que l'être humain se fait de ce qui est bien ou de ce qui est mal. Tu m'arrêtes si je dis des bêtises.
Oui, c'est un peu ça. Oui.
Et alors là, on va parler plutôt sur le sujet, on va aller vraiment sur le sujet central, c'est-à-dire ange et démon et la représentation de ce que sont ces entités dans la religion, tout simplement, et ton avis sur le sujet.
D'accord.
Alors, je t'écoute.
Ah, d'accord. Je pensais que tu allais poser une question.
Non, c'était une question ouverte.
D'accord. alors, en fait, c'est... quand, quand tu m'avais appelé avant l'émission, il n'y aura pas de secret dans ton émission, donc on dit tout, tu m'avais posé la question, qu'est-ce qu'était un ange et qu'est-ce qu'était un démon ? Et je t'avais dit, ça n'existe pas et ça existe. Parce qu'en fait, dans les deux cas, c'est un peu comme nous, pour les êtres humains. Dans les deux cas, ange et démon, ce sont des fonctions. Pour la vision de l'Église catholique. Ce sont des fonctions qu'ont des entités. Il y a des entités qui sont spirituelles, non corporelles, purement spirituelles, qui connaissent Dieu, qui voient Dieu, ça c'est notre foi. Elles le voient, elles savent qui est Dieu. Nous, on ne le voit pas avec nos sens, mais on le devine, on le perçoit avec notre cœur, avec... voilà, plus on va se retrouver en soi, plus on va le trouver. Et si on ouvre bien nos yeux, on le voit à travers la nature et à travers la beauté du monde. Mais c'est peu perceptible. Eux ont cette notion de qui est Dieu, ils le voient. Et ces entités, certaines ont choisi, parce qu'on est toujours face au choix, et même ces entités-là, face au choix de servir Dieu. Et donc, ils vont prendre la fonction d'ange. Dans cette fonction d'ange, c'est ce qu'on va appeler les anges, ce sont ces entités qui ont choisi de servir Dieu et donc du coup d'être proche de l'homme. Et puis il y a des entités qui vont refuser de servir Dieu par jalousie, pour diverses raisons. Et là, on va les appeler les démons. Dans les deux cas, ce sont des entités qui connaissent Dieu. Certaines ont la fonction d'être au service de Dieu. Les anges, c'est leur choix. Certaines ont fait le choix de ne plus être au service de Dieu, voire d'être contre Dieu. Ce sont les démons. Nous, de notre côté, on n'a pas forcément la perception de qui on a affaire lorsqu'on discute avec ces entités, lorsqu'on est confronté à ces entités. Parce qu'on peut être confronté dans la vie à ces entités-là. De par différentes expériences, de par certains vécus. Certains sont là aussi pour nous pousser vers le côté immoral, vers le côté attiser notre côté contre Dieu, qui va nous séparer de Dieu, via les convoitises. Ils vont jouer sur nos pulsions, ils vont jouer sur nos passions, ils vont jouer sur notre attrait, notre appât du gain, notre appât du pouvoir. Notre appât de la richesse, notre appât de la reconnaissance, ils vont attiser ça. Et puis d'autres, au contraire, qui sont à notre service, vont nous aider à aller vers la lumière, vers ce chemin divin, vers cette connaissance qu'ils ont de Dieu. En particulier les anges gardiens, qui sont près de nous et qui sont là pour nous protéger. Donc c'est pour ça, comme je te disais, moi, avec ces entités-là, je crois que l'Église, elle est très, très, comment dire, méfiante de tout ce qui touche à ces entités, parce que les entités démoniaques ont aussi cette capacité de se faire passer pour des anges, à notre vision à nous, à notre compétence à nous, à la manière dont nous on conçoit les choses, et peuvent nous faire croire que des choses qui nous paraissent bonnes le sont, alors qu'en fait elles nous séparent de Dieu et elles nous amènent loin de Dieu. C'est pour ça d'ailleurs que dans la tradition ecclésiale, l'un des noms que l'on a donné à Lucifer, qui est le prince des démons, le grand chef entre guillemets, on va l'appeler le malin, parce qu'il a cette qualité-là, si on peut appeler ça une qualité, en général qualité on va dire bon, mais c'est aussi cette qualité-là, de savoir aussi se faire passer pour quelqu'un de bien ou qui va sauver les choses ou dire ben voilà, si tu fais ça tu vas être, c'est la bonne voie, et en fait ça nous sépare de Dieu, d'où cette méfiance, cette méfiance à l'égard de toute activité qui va demander l'apport d'entité, voilà. Je trouvais intéressant de, quand on en a parlé, c'était je trouvais intéressant d'en parler.
Et alors là, tu nous parles principalement de l'Église catholique qui considère anges et démons de cette manière-là. Est-ce que tu sais dans d'autres religions comment ça se passe ou pas ?
Alors, moi, je parle parce que c'est celle que je connais, c'est celle que j'ai étudiée. Moi, je sais que j'ai aussi étudié avec les, avec des frères orthodoxes ou des frères protestants qui ont cette... enfin, les protestants, pas tous. C'est assez compliqué parce qu'ils ils ont... Il y a beaucoup de communautés protestantes et toutes n'ont pas exactement la même pensée. Donc je vais rester sur mes frères orthodoxes qui ont une pensée qui est quand même assez proche de la vision catholique et qui auront cette même vision-là de ce qui est des anges en disant c'est bien des entités qui ont une fonction. Selon la fonction, ce seront, ils vont choisir le choix d'être des anges. Selon la fonction, ils choisiront d'être des démons. Mais on a affaire à un même type. C'est un peu comme, si j'ai envie de caricaturer, c'est un peu comme quelqu'un qui désire faire le bien, quelqu'un qui désire faire le mal, qui a fait un choix. Là, on pourrait revenir à ton image, est-ce qu'on est un peu démon, est-ce qu'on est un peu ange. Mais là aussi, on peut faire le choix de se séparer de Dieu et d'amener les gens à ne plus être en Dieu. Et c'est un choix. Pourtant, on est pleinement homme. Comme je peux faire un choix, au contraire, d'être attiré par Dieu et d'amener les gens vers Dieu. Je suis toujours un homme.
Oui, bien sûr.
C'est un choix que je fais. Les entités, c'est la même chose, entre guillemets.
D'accord. Okay. Ben, merci pour ces détails, ces éclaircissements sur ce sujet qui est assez compliqué quand même, parce que bon, c'est des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent, comme tu disais. Voilà, quand on voit la beauté de la nature, on sent quelque chose, mais c'est des choses qu'on, de manière matérielle et tangible, on ne voit pas et on ne sent pas, on ne peut pas toucher, donc c'est toujours un peu délicat à décrire.
Exactement. Et puis après, parfois, on le touche sans le savoir, et on croit que c'est bon, et puis on se rend compte que ça n'allait pas, que ça nous a séparés de Dieu, et que ça nous a menés à une forme de pouvoir. Ou vice-versa, on les sent pas, on les voit pas, puis d'un coup on se retourne et dit mais c'est pas possible, j'ai un ange au-dessus de ma tête qui était là pour me protéger. Et puis c'est des petits signes comme ça où on s'en rend compte.
Pour terminer, est-ce que tu aurais un petit conseil pour arriver à savoir ce qui est bon ou ce qui ne l'est pas pour nous?
Alors moi, le seul conseil que j'ai, c'est celui qu'on m'a donné, c'est à partir du moment où ça te rapproche de Dieu, alors c'est bon signe. À partir du moment où ça te sépare de Dieu, ça t'éloigne de Dieu, pose-toi la question. Les anges nous amènent à Dieu, toujours. Pas forcément un Dieu qu'on se construit, mais un Dieu que, au contraire, que l'on découvre, qui est plus grand que notre perception, plus grand que ce qu'on est. Qu'on va appeler Allah pour les musulmans, qu'on va appeler Adonai, Yahvé pour les juifs, qu'on va donner Trinité, Père, Fils, Saint-Esprit pour les chrétiens. Ce sont trois, pour parler des grandes religions, trois manières de par notre culture, de notre conviction, d'aller vers Dieu, mais je pense qu'à partir du moment où il nous amène vers ce Dieu miséricordieux, attention, je parle bien de Dieu miséricorde, le Dieu qui aime, pas le Dieu qui fait loi. Parce qu'à travers ces trois religions, on peut aussi tomber dans la problématique du Dieu qui est loi et non plus du Dieu qui aime.
Oui.
Et attention de ne pas faire de la religion un système étatique des lois et de garder un système qui ouvre le cœur à l'amour. Ça, c'est très important. C'est l'une des clés aussi de compréhension des religions, quelles qu'elles soient. Petit aparté, mais qui me paraît fondamental.
Oui, qui est important.
Ouais. Et donc, du coup, voilà. Moi, je dirais méfiance. Si vous avez l'impression d'avoir un pouvoir, de dominer quelque chose, attention. Posez-vous de vraies questions. Si c'est la curiosité d'un monde, je suis en train de toucher des trucs, j'arrive à faire des choses qui ne sont pas normales, et par curiosité, j'y vais, attention. Posez-vous la question. Là, c'est la curiosité malsaine, dans le vrai sens du terme, qui amène au malin. Si, au contraire, vous cherchez Dieu, vous allez vers Dieu, et puis il y a des priez les anges qui vous guident dans ce chemin vers Dieu, là, vous serez bien entouré.
Et alors, pour les gens qui sont pas croyants, admettons, qui ne croient ni en Dieu, ni en ange et en démon, pour essayer de suivre un peu cette voie, il suffit juste de suivre la voie de l'amour, en fait, c'est ça ?
La voie de l'amour, c'est la seule. Moi, j'aime beaucoup rappeler, alors pour ceux qui n'ont pas lu la Bible, je vais le raconter. De mémoire, c'est un pharisien qui va voir Jésus qui lui dit, parce qu'ils aimaient bien essayer de les... C'est les gens de loi. Alors je dis pharisien parce qu'à l'époque, nous aujourd'hui, je dirais, ce serait un curé, ce serait un rabbin, ce serait un imam, ce serait un homme de loi, de la loi religieuse. Quelle que soit la religion, qui vient le voir et qui dit, mais c'est quoi le plus grand des commandements ? C'est quoi le plus grand ? Dans le sens, qu'est-ce qui est la clé de voûte de toute vie ? Et donc il répond deux choses. Pour lui, il y en a deux qui n'en font qu'un. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Donc tu t'aimeras totalement en Dieu. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu ne peux faire l'un si tu ne fais l'autre. Si tu n'aimes pas ton prochain comme toi-même, alors tu ne peux pas tendre vers Dieu. Et si tu ne tends pas vers Dieu, tu ne peux pas aimer ton prochain comme toi-même. Mais pour ceux qui ne croient pas en Dieu, tendez déjà vers « aime ton prochain comme toi-même ». Et puis petit à petit, ben, je prie pour qu'il découvre que ben, pour le faire entièrement, c'est bien de se tourner vers Dieu.
Merci beaucoup Jean-Gabriel.
Mais avec un très grand plaisir.
Merci et puis on vous souhaite une très belle journée sur CFM.
Eh ben, merci à toi et puis merci à votre radio d'exister. C'est vraiment une super idée.
Merci.